Alors, donc CNV, encore une fois, il définit les grandes lignes. Moi, je voulais introduire un sujet, parce qu'on parle beaucoup de développement durable, et il est quand même important de rappeler que le développement durable, il s'inscrit sur trois piliers essentiels. Le développement durable, ce n'est pas que une écologie vertueuse. C'est certes une écologie vertueuse, ça fait partie d'un premier pilier. Le deuxième pilier du développement durable, c'est une économie soutenable. Le troisième pilier du développement durable, c'est, comment dire, les aspects sociaux soutenables pour la population. Et c'est bien la conciliation des trois qui est très importante. Et c'est bien ce qui est difficile. C'est-à-dire que souvent, quand on parle d'un sujet purement écologique, à savoir, quand on parle de culture, ou qu'on parle je sais pas, de zone agricole, ou je ne sais quoi encore, évidemment, on ne peut pas aborder le sujet que sous cet angle-là. C'est juste pas possible. Parce que sinon, moi, demain, je vais démontrer à Montélégalie, parce qu'actuellement, on est dans le ski bashing à outrance. Bon, si on veut être radical, effectivement, on prend des décisions qui sont radicales parce que sous couvert d'écologie pure, c'est bien. Sauf qu'aujourd'hui, derrière, il y a l'économie. Et que l'économie, on ne peut pas, comment dire, d'un revers de main, mettre l'économie dans le tiroir et ne plus considérer que ce n'est pas un sujet. Non, c'est un sujet. Au même titre que une politique sociale soutenable, c'est un sujet. Et donc c'est bien la conciliation des trois qui est très importante. Donc les problèmes, systématiquement, doivent être abordés sous l'angle de la conciliation de ces trois piliers. Sinon, on discute dans le vide. Et c'est bien la difficulté. Parce que cet exercice aujourd'hui du PLU, il est, comment dire, la difficulté de la réalisation de ce PLU, c'est bien la conciliation de ces trois sujets. C'est bien une cartographie qui va permettre la conciliation de ces trois sujets. Et donc, c'est autour de ça qu'on a bâti aujourd'hui notre premier sujet. Alors, aujourd'hui, là, on a mis revitalisation de l'habitat permanent, de la vie permanente. Donc, effectivement, ça, c'est un sujet. Mais avant de parler de la revitalisation de l'habitat permanent, je vais parler d'un sujet qui est, pour moi, la volonté d'avoir une économie pérenne. Une économie pérenne. Aujourd'hui, ça nous a échappé que notre commune comporte 82-83% de résidences secondaires, a une économie majeure qui s'appelle le tourisme. Cette économie touristique, elle repose sur une locomotive extrêmement forte qui est le ski, puisqu'il y a une station à 80 ans, la station de Plaine 50 ans. L'économie du ski a apporté des ressources extrêmement importante à la commune depuis 80 ans. Donc aujourd'hui, on est dans une problématique effectivement de réchauffement climatique. On voit que les saisons sont de plus en plus chaotiques. Donc que va-t-il se passer dans les 10 ans qui viennent, dans les 20 ans qui viennent, sur l'économie de la neige? Bon, on perçoit qu'effectivement, il y a des soubresauts. On s'aperçoit qu'il y a des saisons qui sont de plus en plus chaotiques. Et c'est vrai que depuis 10 ans, il y a eu des plans de développement de neige de culture. Donc les débats à l'infini, est-ce que c'est écologique, est-ce que c'est pas écologique? Bon, on sait que de toute façon, il y a une problématique des 20 ans qui viennent, qui va être une problématique sur l'eau, qui va être un vrai sujet, dont il faut tenir compte. Et pour autant, si on n'avait pas fait ces investissements en neige de culture il y a 10 ans, vraisemblablement nos stations, on sait rien, début mars, ou le 10 ou 12 mars, on l'aurait fermé. Donc vous voyez que, quand je prends cet exemple, c'est juste pour dire que c'est pas simple. C'est pas si simple, et c'est pas dans des claquements de doigts de prendre des décisions brutales et radicales. Donc il faut le faire avec une grande intelligence. C'est plus compliqué à faire aujourd'hui que ça ne l'était hier. Donc l'économie du ski, aujourd'hui, pour moi, c'est pas fini, parce qu'il y a encore des très belles saisons. Donc, moi, je ne partirai pas sur cette voie-là. Non, le ski, ça existe, il y a une économie derrière, donc il faut le faire intelligemment. Et par contre, effectivement, il y a une dizaine d'années, on a entamé une politique de diversification. Alors effectivement, la part du chiffre d'affaires de diversification, elle était très faible. Mais depuis 10 ans, on a quand même aujourd'hui fortement développé ça. On ne le fait pas dans une logique court-termiste. On le fait parce que la diversification doit nous permettre potentiellement d'améliorer l'offre, mais aussi de mieux, comment dire, amortir les soubresauts, comment dire, de saison sur la neige, de saison sur le ski, qui sont effectivement présents. Donc on a des projets de diversification divers et variés qui, pour nous, font partie, comment dire, de cet amortisseur. Et dans cette logique d'économie pérenne, la réflexion qu'on a eue aussi, c'est de se dire, ben, la montagne, potentiellement, c'est le plus bel endroit de la Terre pour travailler. Et donc, quand on se dit que c'est le plus bel endroit de la Terre pour travailler, ben, on a une chance, c'est qu'on a aujourd'hui les infrastructures numériques avec la fibre qui arrivent, même si ça n'arrive jamais assez vite qu'on ne le souhaite, mais qui permettent de travailler en délocalisé. Donc, par exemple, l'économie, elle se fait aussi, et vous le verrez dans notre PMU, par des projets de création de zones artisanales. Donc vous le verrez par exemple dans notre PMU. Il y a peut-être un petit mot sur les dossiers Stécal aussi. Et donc ces dossiers Stécal, aujourd'hui, qui sont un petit peu des exceptions tolérées par les services de l'État pour sortir un peu du cadre dans le cadre du PMU. Donc on va créer une zone artisanale parce que les artisans, on veut attirer les artisans sur la commune. Et donc on travaille en relation avec la communauté de communes sur ce projet de zone artisanale. Autour de la mairie, donc on a fléché une zone pour créer une zone artisanale. On a fléché aussi une zone dans la mairie pour créer une zone tertiaire, pour amener des entreprises du tertiaire, créer des espaces de coworking, pour créer une pépinière d'entreprise. Ça fait partie de... comment dire, la revitalisation de l'économie, ça participe à avoir une économie pérenne. Je parle de l'agriculture. Bon, aujourd'hui, autour, par exemple, de la chèvrerie, on a défini une zone agricole et on met beaucoup d'énergie à essayer de favoriser l'implantation de jeunes agriculteurs. Je pense à Tony Cartier, je pense à Nico Hugo, que je vois au fond, et c'est pas facile pour lui parce que des terrains, on n'en a pas pléthore, mais on mouille la chemise pour favoriser l'implantation de jeunes agriculteurs sur la commune. Donc on a fléché des zones agricoles, qu'on appelle agricoles constructibles, donc c'est hyper cadré, vous le verrez, mais on a vraiment l'envie de le faire. Nicolas, je pense que je t'ai eu au téléphone au moins 10 fois là, les 2 derniers mois. Donc c'est pas simple, hein, mais on essaie quand même de se bouger sur tous ces sujets-là. Donc retenez une chose, encore une fois, pérenniser l'économie, évidemment, dans un cadre qui est ce cadre, j'ai envie de dire, de respect, alors des bâtiments qui sont durables, mieux isolés, avec des énergies renouvelables. Et de toute façon, j'ai envie de dire, on n'a pas vraiment besoin de le faire, puisque maintenant les nouvelles normes RN 2022, je crois, elles deviennent extrêmement drastiques en termes de normes de construction sur les économies d'énergie. Donc de toute façon, ça, aujourd'hui, on n'a pas le choix, c'est absolument obligatoire. Par contre, cette économie aujourd'hui qui a tourisme, qui a tiré, comment dire, je parle de systèmes généraux parce que vous le verrez dans la concrétisation de nos zonages, on va superposer ces zones-là par rapport au discours que je vous ai tenu. Par contre, il y a une conséquence néfaste qu'on a créée aujourd'hui, c'est que on a une érosion de la population permanente. Pourquoi on a une érosion de la population permanente? Essentiellement parce que depuis 20 ans, le foncier est devenu très cher. Donc le foncier au carreau, c'est 3 fois le prix du foncier à Cluses à 15 km. Voilà. Donc, il est très compliqué pour nos jeunes de s'habiter, parce que le foncier devient inaccessible. La conséquence de tout ça, bah, c'est qu'aujourd'hui, on a moins d'enfants à l'école, on ferme des classes. Donc c'est aussi un clignotant qu'il faut vraiment prendre en compte, parce que si on ne prend pas en compte ce clignotant, bah, parfois on oublie que le tourisme, il fonctionne aussi parce qu'il y a des habitants permanents. Et dans les habitants permanents, je peux parler aussi des saisonniers qui sont peut appeler des semi-permanents, mais il y a aussi des saisonniers qui sont habitants permanents. Donc, quand si on ne fait pas attention à ce socle-là, aujourd'hui, je ne sais pas comment on va faire fonctionner le tourisme. Donc, il y a un gros clignotant qui s'allume, raison pour laquelle, vous le verrez dans notre PLU, on a fléché des zones. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais ce qu'on appelle des EAP, des opérations programmées, où on flèche des terrains qui, seront réservés à l'habitat permanent. Donc, pour monter des opérations, logements sociaux, ou ce qu'on appelle BRS, qui sont des bails réels et solidaires, il y a différents montages. Et aujourd'hui, la problématique des stations de montagne, tous les maires parlent de la même chose. Les champions du monde, c'est le gel. Je crois que la population en 20 ans a baissé de 40%, population permanente. Nous, on a encore relativement une chance, c'est que notre population est sérone, mais c'est pas non plus catastrophique. Ce qui est plutôt catastrophique aujourd'hui, c'est la fuite des jeunes ménages, c'est-à-dire ceux qui ont des jeunes enfants et qui mettent leurs enfants à l'école. Donc, notre sujet est principalement là. Parce qu'un jeune, s'il n'a pas la chance de tomber dans une famille où le papa, la maman avaient des terrains, eh ben, il fait quoi aujourd'hui, s'il travaille sur la commune, ben, il va habiter à Marlin, à Cluse, à Sionzier, parce qu'il n'a pas d'autre choix que celui-là. C'est tout. Donc ce problème-là, on le prend à bras le corps, mais sachez que ce n'est pas facile. Parce que par exemple, quand on fait des logements sociaux, il faut mettre beaucoup d'argent public pour faire des projets de logements sociaux. Beaucoup d'argent public. Et l'argent public, on a quand même un petit peu, on en a de moins en moins. Parce que ça ne nous a pas échappé qu'aujourd'hui, depuis 2012, il y a eu des transferts de compétences, des transferts de fiscalité qui se sont faits vers les communautés de communes. Les dotations de l'État ont baissé. Depuis 2014, on a 1 million par an de dotations de l'État en moins. On paye un fonds de solidarité intercommunale de 400 000 euros qui part à l'État et qui redistribue ce qu'ils appellent les communes pauvres. Donc ils piquent aux communes riches, ils considèrent qu'on est une commune riche. Et ça, c'est tout l'argent qu'on n'a plus aujourd'hui pour financer nos projets. Donc, je ne fais pas la pleureuse, mais aujourd'hui, il faut sortir des sentiers battus et trouver d'autres moyens intelligents, innovés, la fiducie, mon cher Jean-Philippe, hein, ou d'autres, pour essayer de continuer à imprimer une dynamique. Parce que c'est ça qui est important, c'est de continuer à imprimer une dynamique. Et moi, je dis souvent, ce qui importe, c'est de continuer à avoir un territoire attractif où il fait bon vivre. C'est ça le sujet chapeau. Il n'y en a pas d'autre. Donc le deuxième point, c'est hisser la commune dans les meilleures expériences clients dans les destinations montagnes. Alors, ça fait un peu marketing quand on dit ça, ok? Mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, le tourisme restera durablement notre porteur de financement. Et au bout des touristes, il y a les touristes. Et les touristes, ils viennent pour des raisons très précises. Ils viennent parce qu'ils ont plaisir à venir chez nous. Et il faut vraiment, et là je trouve qu'on a beaucoup de progrès à faire, instaurer la culture du client. Évidemment, il y a plein de gens qui l'ont, et il y a des gens qui l'ont un peu moins. Donc ça c'est fondamental, parce que les touristes qui nous visitent, le plus important c'est pas qu'ils viennent une fois, c'est qu'ils reviennent plusieurs fois. Et qu'aujourd'hui, il est fondamental qu'on entretienne ça d'une manière complètement durable. Souvent, moi je fais les assemblées générales, les syndics, et je vais rencontrer les propriétaires, et sur les nouvelles résidences, souvent je pose la question, mais pourquoi vous avez acheté au carreau? Pourquoi? Donc les réponses, elles sont assez simples. Aujourd'hui, premièrement, grand domaine skiable, grand massif. Ça, c'est 100% des réponses, c'est domaine skiable, grand massif. C'est pour ça que cette notion de grand massif, pour moi, elle est très importante. Deuxièmement, aujourd'hui, ils nous disent accessibilité. Les Genevois, etc. Ça, c'est un atout qu'on a, l'accessibilité de l'autoroute, etc. Je ne vais pas dire qu'on est à la banlieue de Genève, mais d'une certaine façon, on a une accessibilité qui est un atout extraordinaire pour nous. Et qui sera potentiellement un atout pour développer une économie qui n'est pas qu'une économie basée justement sur le tourisme. Ça, c'est un atout extraordinaire. La troisième des choses qu'ils nous disent aujourd'hui, c'est que c'est un village authentique. On a gardé des zones de chalet, on a des résidences qui ne sont pas des immeubles de 22 étages, etc., etc. Et vous le verrez quand on va présenter les plans de zonage. Et je l'ai dit à plusieurs reprises, quand on a fait le PLN, quand on a fait les vœux au mois de janvier, quand on a fait une réunion publique en juin l'année dernière, j'ai exprimé ça, j'ai pris quelques exemples. Et vous le verrez, mais par exemple aujourd'hui, les règlements de zone tels qu'ils ont été faits, ils ont été faits aujourd'hui sur certaines zones, par exemple au Servage ou à Serveret. Aujourd'hui, notre règlement de zone fait qu'un promoteur peut arriver, acheter un chalet, le raser et faire 25 appartements. Si on ne fait pas gaffe à ça, notre village ne ressemble plus à rien dans 20 ans. Et je reviens sur une des trois ou des quatre raisons fondamentales pourquoi les jeunes viennent ici. Et d'ailleurs, il y a des gens qui vont apprendre pour autre chose, hein, c'est-à-dire avec une architecture différente. Mais les gens qui viennent au carreau, cet aspect-là est fondamental. Donc on est en train de changer les règlements de zonage pour qu'il ne soit plus possible, hein, sur les zones de chalet, de racheter à un propriétaire un chalet de surface de 1000 m² et de faire un immeuble de 25 appartements. Parce que les promoteurs aujourd'hui, il faut quand même savoir une chose, c'est que ce que Vincent vous a dit, eux, ils le connaissent par cœur. Hein. Zéro artificialisation nette, etc. Donc ils sont en train de voir que la porte est en train de se refermer. Donc ils se bousculent tous à la porte pour balancer des projets, des fois même sans avoir contacté les propriétaires. Ils disent regardez ce que j'ai, puis après ils vont voir les propriétaires, ils leur disent oui, vous allez gagner au loto avec moi, hein, dans votre terrain, etc. Regardez le règlement PLU. Ils savent très très bien que le futur PLU va fermer la porte à tout ça. Et donc, c'est pour ça que nous, dans notre logique, cette logique de garder le village authentique, il est extrêmement important. Et vous le verrez dans les déclinaisons, je décline déjà un chiffre, parce qu'effectivement, dans ce PLU, on a ces impératifs-là qui s'imposent. Et donc aujourd'hui, on ne veut pas. Moi je dis souvent, on rentre dans l'ère du qualitatif. Il est plus le temps qu'on rentre dans l'ère du qualitatif versus le quantitatif. Je pense que pendant 20 ans, il y a eu cette culture de dire un lit égal, 10 milliers de chiffres d'affaires, monter les caliques, etc., etc. Sauf que, vous comme moi je ne sais pas si vous skiez encore au mois de février, mais moi, c'est longtemps que je skie au mois de février parce que j'ai peur de faire plein d'eau. Donc, c'est extrêmement important d'avoir ce raisonnement et de réguler. Et vous le verrez que de toute façon, la structuration du PLU fait qu'on va réguler énormément la notion de consultabilité et en particulier, on va aussi augmenter les types d'hébergement. C'est-à-dire qu'on va freiner au maximum les lits froids. C'est-à-dire que des projets aujourd'hui de lits froids, ce qu'on appelle un lit froid, c'est voilà, un appartement, je l'achète, je suis lyonnais, je viens de temps en temps, le mégolet sont fermés 10 mois de l'année. Donc on veut privilégier les lits chauds, ça c'est très important. Dans les lits chauds, notamment, il y a les projets de l'hôtellerie, on n'a quasiment plus l'hôtel au carreau. Pourquoi on a plus l'hôtel au carreau? Il y a plein d'explications. Donc dans notre PLU, on va, sur certains zonages, on va flécher des zonages qu'on appelle EH, qui vont être réservés à l'hôtellerie. Donc les propriétaires ne pourront pas faire autre chose que de vendre pour un projet hôtelier. Donc ça, c'est toute une somme de contraintes qui seront le reflet, j'ai envie de dire, de la politique qu'on veut absolument mener. Donc après, que dire d'autre, hein? Prise en compte transversale des problématiques environnementales. Donc vous le verrez. Aujourd'hui, sous contrainte, effectivement, aujourd'hui, on nous impose de ne plus construire dans la discontinuité. D'accord ? Donc, il va y avoir dans la proposition de PLU pratiquement 60 à 70 hectares de terrain qui vont être déclassés. Donc, si je reprends le débat qu'a exposé Vincent tout à l'heure, bon, bah, s'il n'y avait pas eu de saison, etc., bah, potentiellement, tous les terrains qui vont être déclassés étaient ouverts à l'urbanisation. Donc, ça, c'est un sujet important parce que quand on parle d'artificialisation des sols, 70 hectares de terrains qui vont être déclassés, c'est pas neutre sur notre commune. Et ces terrains, aujourd'hui, vont être préservés pour les espaces naturels, ils vont être préservés pour l'agriculture. Même si c'est pas que simple de développer l'agriculture chez nous, hein, disons. Donc, Voilà. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc effectivement, là-dedans, on a tout un programme qui sont sur la rénovation des bâtiments publics. On a donc, la préservation des terres agricoles et comment dire, des espaces naturels. Donc voilà un petit peu les grandes lignes qu'on est en train de développer. Je ne sais pas si encore un slide, Vincent, derrière. Voilà. Je ne développe pas ça. Sachez que ce fameux PADD, il est public. Vous avez accès à ce PADD. D'accord? Comme aujourd'hui, l'écriture de la vision qu'on a opérée, notamment par une large consultation avec l'Université Saint-Marc, il est disponible sur Internet. Vous pouvez interagir sur une plateforme de dialogue avec, comment dire, Reynald ici présent, qui anime cette plateforme. Donc voilà. Je ne vais pas vous saouler davantage avec. Ce ne sont que les grandes lignes. Et évidemment, maintenant, Vincent va vous parler, je veux dire, de la concrétisation, parce que c'est comme le sujet de la soirée, hein, c'est le PLU. Et donc, je vais lui repasser la parole.